Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés. Vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.
Nous revoilà à Contre-Histoire. Une histoire qui commence en 1066 de notre ère et qui s'étire jusqu'en 1804. Et n'ayez pas peur, ça ne sera pas du genre compacté et Reader's Digest, non, non. Ça sort directement des éditions du Flubbelub, dont je vous ai déjà servi quelques ouvrages de Grégory Jarry et Otto T. La série s'appelle, vous vous en souvenez sans doute, « Petite histoire des colonies françaises ». Donc, nous retrouvons le général de Gaulle, à qui Grégory Jarry emprunte le style et Otto T, la silhouette aussi large que haute. Petite histoire des colonies françaises passe en revue 5 siècles de colonisation. Dans ce premier tome, le lecteur et les auditeurs seront surpris de découvrir les bienfaits que nos ancêtres ont apportés en Amérique et aux Antilles. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, si la France occupe aujourd'hui un rang de première catégorie parmi les nations du monde, c'est qu'elle a su par le passé prendre part à la plus belle des entreprises humaines, la colonisation. Cette histoire, que vous connaissez peut-être mal, vous pouvez tous en être fiers. Elle nous a permis de manger des citrons et des bananes en toute saison depuis des générations. Si j'ai été convié ici, moi, le général de Gaulle, pour vous conter cette histoire, c'est parce que j'ai une haute opinion de la France, de ses valeurs et de sa mission. Aussi, parce que je sais que vous allez m'écouter, comme vous avez su le faire par le passé, aux heures sombres et aux heures glorieuses. Et puis, ne soyez pas naïfs. Vous savez bien que je ne suis pas réellement le général de Gaulle, car je suis mort le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises. En réalité, je suis l'image du général de Gaulle, reconstituée à partir des archives de l'époque. Pour moi, l'histoire des colonies françaises n'est pas une connaissance réservée à l'élite. Tout Français a le droit d'apprendre ce qui s'est réellement passé, car ça finira forcément par se savoir un jour. En Afrique et en Asie, dans les Indes et en Extrême-Orient, et même en Amérique. Nous avons tissé des liens profonds avec les indigènes, car nous avons su nous intéresser à leurs coutumes et à leurs ressources naturelles. L'aventure coloniale n'est pas qu'une compilation d'entreprises militaires ou commerciales. C'est une grande œuvre collective que la métropole a planifiée de l'intérieur, suivant trois grands principes. Exploration, civilisation et évangélisation. Aujourd'hui, l'empire colonial n'est plus. Mais la France est une terre d'accueil pour les immigrés de nos anciennes colonies, pour les immigrés des colonies des autres pays, et même pour les immigrés des pays qui n'ont jamais eu de colonies. Tous nos immigrés, sans exception qu'ils soient noirs, jaunes ou bleus, ont trouvé du travail et ne font l'objet d'aucune discrimination de la part des vrais Français. Si le monde d'hier n'est pas devenu français, au moins la France du XXIe siècle est-elle devenue mondiale. Quand on parle de colonisation, il faut forcément parler des Anglais. Mais d'abord, posons-nous cette question douloureuse. Qu'est-ce que c'est un Anglais ? Si on examine attentivement les histoires de France et d'Angleterre, il faut se rendre à l'évidence. Un Anglais est un Français qui a trahi. En 1066, après la mort d'Édouard le Confesseur, le trône d'Angleterre se trouva sans héritier. Guillaume II de Normandie, descendant du peuple viking, jurait ses grands dieux qu'Édouard le Confesseur lui avait promis la couronne. Au grand dam d'Harold Godwinson, le beau-frère du défunt roi, est donc l'héritier légitime. En France, on trouvait Harold Godwinson stupide, et ça nous faisait mal au cœur de penser que l'Angleterre pouvait tomber entre ses mains. Guillaume II de Normandie rassembla ses armées, 15 000 hommes, 3 000 chevaux, 600 drakkars, et tout ce beau monde traversa la Manche. Les jolies vignettes qui accompagnent ce discours. Hastings, 1066. Alors qu'il s'approchait pour voir si c'était bien Guillaume II de Normandie qui s'amenait, Harold Godwinson reçut une flèche dans l'œil et ses armées prirent la fuite. Je caricature à peine. La bataille n'a duré qu'une journée. Il paraît que pour l'époque, c'était déjà pas mal. Ainsi, l'Angleterre tomba aux mains de Guillaume II de Normandie, qui se proclama Guillaume le Conquérant. Il n'avait quasiment rien eu à faire. Voyez un peu le scandale. Il fut couronné roi d'Angleterre dans la foulée. Une fois passé de l'autre côté, il n'a cessé de convoiter le royaume de France et de monter ses fils contre nos bons rois capétiens. Alors qu'au départ, on avait quand même donné de bon cœur la Normandie à ses ancêtres vikings. Quand je vous disais qu'un Anglais est un Français qui a trahi. Ensuite, tout se passa à peu près bien pour nous jusqu'à Philippe le Bel, qui mourut en 1314, alors que la paix régnait en son royaume. On pensait que ça pouvait durer encore 1000 ans. Mais il avait 4 enfants, et aurait mieux fait d'attraper les oreillons dès le premier. Philippe le Bel avait eu 3 fils et une fille, Isabelle. À 10 ans, elle fut mariée à Édouard II, roi d'Angleterre, lequel n'avait Dieu que pour Pierre Gaveston et Hugh Despenser, de beaux jeunes hommes pleins de fougue. Au début, Isabelle ne faisait pas trop attention, mais quand elle fut en âge d'avoir des enfants, elle se mit tout à fait en rogne. Isabelle, reine d'Angleterre, devint alors la louve de France. Dès qu'elle entendait parler d'une histoire de fesses, il fallait qu'elle mette son grain de sel. Un jour, elle dénonça les femmes de ses frères qui organisaient des parties de débauche en plein Paris. Elles furent enfermées pour le restant de leur jour, tandis qu'on dépeça les amants après les avoir émasculés. Mine de rien, les 3 fils de Philippe le Bel, donc les frères d'Isabelle, je ne sais pas si vous me suivez, cette histoire leur avait fichu un coup. Après la mort de leur père, ils se succédèrent sur le trône de France, réhabilitèrent leurs femmes ou bien se remarièrent. Mais ils n'arrivaient pas à faire de garçons. Ou alors les tout jaunes qui ne vivaient pas vieux. Résultat, quand le dernier frère s'éteignit, il n'y avait pas d'héritier en ligne directe. Les prétendants à la couronne de France furent les 2 petits-neveux de Philippe le Bel, les comtes de Valois et d'Évreux. Entre-temps, Isabelle, la louve de France, avait fait assassiner son mari et son fils. Édouard III était devenu roi d'Angleterre. Édouard III était un petit-fils de Philippe le Bel et donc le plus proche héritier du trône de France. Vous croyez peut-être qu'on allait refiler notre beau royaume à un descendant de sale traître? Alors on a choisi le comte de Valois qui est devenu Philippe VI. Et ainsi a commencé la guerre de 100 ans. Mais franchement, valait mieux 100 ans de guerre que de se taper de la confiture de pied de mouton tous les matins au petit déjeuner. Les Français commencèrent à s'intéresser de près au Nouveau Monde vers 1560, sous l'impulsion de l'amiral Gaspard de Coligny. La France était au bord des guerres de religion, et Coligny, qui était protestant, voulait fonder une colonie en Amérique pour servir de refuge au cas où les choses tourneraient mal. Coligny disait au jeune Charles X « En France, on est toujours à la traîne. Vous avez vu les nouveaux uniformes anglais? Ils ont un beau chapeau, des vestes rembourrées, des bottes en cuir et tout et tout. Nous, on en est encore aux uniformes de 1515. » Charles IX se laissa convaincre et Coligny nomma le protestant Jean Ribaud à la tête d'une flotte de 5 vaisseaux qui débarqua en Floride le 30 avril 1562. Très vite, Jean Ribaud devint l'ami des Indiens Timucuan, qui apprirent le français avec beaucoup de plaisir, car c'est une langue qui s'apprend facilement. Jean Ribaud fit construire Charles Fort et y laissa le capitaine Albert de la Piera en charge de 30 soldats et repartit pour la France, promettant de revenir le plus vite possible avec du fromage et des bouteilles de vin rouge. Mais à Charles Fort, on n'y croyait guère et les denrées commencèrent à manquer. De la Piera et deux de ses hommes montèrent une expédition pour voler des poules aux Indiens Timucuan, mais ils firent trop de bruit et les Indiens les invitèrent pour le dîner. Les Français chipèrent des petits pains et mirent des tranches de jambon dans leurs poches. Ce n'était pas suffisant pour nourrir les affamés qui gardaient le fort. Une mutinerie s'ensuivit. Le capitaine de la Piera y laissa la vie et Nicolas Barré prit le commandement. Nicolas Barré haranguait les foules comme personne. « On ne peut pas rester là les bras croisés. Il a raison. Si on fait rien, on va tous crever, de faim et de soif. Bien dit. En restant ici, on va se faire étriper par les Indiens, ou bien on va s'entretuer jusqu'au dernier. C'est vrai. On n'a qu'à retourner en France avec nos propres moyens. Exactement. Construisons un radeau et traversons l'Atlantique. Ouais. Et on emmerde Christophe Colomb. » Bientôt, au cœur de l'océan, le vent ne souffla plus et ça dura 21 jours. Au début, on faisait la conversation pour surmonter le moral. Mais petit à petit, l'ambiance se dégrada. On s'en prenait à un tel qui tapotait machinalement avec son index sur le bord de la barque, à un tel qui faisait les yeux blancs sans le faire exprès, à un tel qui faisait des petits bruits avec sa bouche quand il dormait. C'est dur de trouver de quoi noyer son chien sans l'accuser de la rage. La faim et la soif devinrent insoutenables. Les hommes mangèrent leurs vêtements et burent leurs urines. Quand ils eurent tout mangé et tout bu, ils décidèrent de sacrifier l'un des leurs pour la survie du groupe. On tira à la courte paille. En réalité, le tirage était truqué et un dénommé Lachère fut désigné, celui qui faisait des petits bruits avec sa bouche quand il dormait. Le pauvre Lachère fut dévoré par ses compagnons. Durant le festin, il y avait un silence pesant. Les hommes avaient du mal à se l'avouer, mais ils se régalaient. Quand tout le monde fut repu, les conversations reprises, on trouvait toutes les qualités du monde à Lachère. Dans le fond, c'était quand même un brave type. Le navire anglais sauva les passagers au seuil de la mort. Nicolas Barré fut interrogé par la reine d'Angleterre, puis jeté dans la tour de Londres, où il tomba sur Jean Ribaud. Ce dernier, de retour en France, avait trouvé Dieppe assiégé par les catholiques français et s'était tourné vers les protestants anglais pour venir en aide à Charles Fort. Mais on l'avait jeté en prison car les Anglais voulaient eux-mêmes envoyer une expédition en Floride. Pendant ce temps, les Espagnols, premiers découvreurs de la Floride, avaient brûlé Charles Fort et étaient rentrés à Cuba en se tapant sur les cuisses. Au même instant, René Goulaine de Laudonnière, à la tête d'une seconde expédition française, arriva sur les côtes de Floride. La nouvelle colonie comptait 300 hommes et seulement 4 femmes, qui ne dormaient pas beaucoup la nuit. Laudonnière fit construire Fort Caroline et durant l'hiver, les choses tournèrent au vinaigre. Les Indiens refusèrent d'apprendre le français, pourtant c'est facile. Les vivres finirent par manquer et une mutinerie éclata dans le fort. Au moment où Laudonnière décidait de tout envoyer valser et de rentrer en France, Jean Ribaud, enfin libéré, s'amena avec 7 vaisseaux, 600 hommes, du fromage de chèvre et des tonneaux de vin rouge. On fit la fiesta, mais la gueule de bois fut redoutable. Quelques jours plus tard, Pedro Menéndez de Avilés, l'un des plus éminents bulldogs du roi d'Espagne, chassa les Français de Floride dans un épisode où nos ancêtres furent passés au fil des épées sur une plage appelée depuis Matanza Inlet, la crique au massacre. Ajoutons qu'à 2 reprises, les Français tentèrent une colonisation au Brésil, ce qui ne fit qu'à moitié rigoler les Portugais. Mais nous nous débrouillâmes comme des manches et cela se termina mal. L'Amérique du Sud valait mieux laisser tomber. Les Anglais progressaient sur les côtes d'Amérique du Nord. Nous décidâmes de poursuivre les explorations de Jacques Cartier au Canada. Comme chacun le sait, c'est le découvreur officiel du Québec, Jacques Cartier. Le 20 avril 1534, il partit de Saint-Malo avec 2 navires et 1 bouteille de rhum. Il parvint en 20 jours seulement au golfe du Saint-Laurent. Il s'était mis sur les courants, pas fou. En juillet 1534, Jacques Cartier fit la connaissance des Iroquois. Peuple nomade, courtois et accueillant, qui échangeait volontiers belles peaux de grizzly contre petits colliers de verre. Les festivités furent organisées, on dansa, on chanta et on apprit le français avec beaucoup de plaisir. Durant l'hiver, Jacques Cartier eut une petite frayeur, car ses hommes avaient des dents qui se déchaussaient et les gencives qui pourrissaient. Certains mouraient dans d'atroces souffrances. Jacques Cartier était bien embêté. Il alla demander conseil à ses amis Iroquois qui éclatèrent de rire. « Ça, rien du tout, c'est scorbut. Juste boivent des tisanes d'écorce de cèdre blanc. » Jacques Cartier fut content de l'entendre. Il annonça la bonne nouvelle à ses hommes. Les sourires ne furent pas jolis à voir. Jacques Cartier ne trouva ni or ni pierre précieuse, mais il marqua un point décisif face aux Anglais. Il avait découvert une voie naturelle vers l'intérieur du continent, le Saint-Laurent, tandis que les Anglais furent longtemps bloqués par les Appalaches, car ils sont zéro en alpinisme. Au début du XVIIe siècle, Henri IV décida de poursuivre l'œuvre de Jacques Cartier. Finalement, ça s'est terminé en jus de boudin. Il chargea Samuel de Champlain, géographe du roi originaire de la Saintonge, d'implanter une colonie durable au Canada. L'exploration du continent s'effectua en 6 grands voyages de découverte basés sur l'amitié que Champlain entretenait avec les Indiens. Mais dans la vallée du Saint-Laurent, le commerce des fourrures avait complètement chamboulé les Iroquois, qui étaient devenus cupides et méchants. Par le troc ou par le vol, ils avaient obtenu des fusils et de l'agneau. Et ils en faisaient bon usage. Quand ils ne les avaient pas exterminés, les Indiens avaient refoulé les tribus agricoles vers l'intérieur des terres. En particulier, ils menaient une guerre sans merci aux Hurons, peuple paisible que la vue d'un papillon pris dans une toile d'araignée jetait dans une profonde mélancolie. La colonisation faisait évoluer la société indienne à contre-courant. Les paysans sédentaires redevenaient nomades et chasseurs de fourrures. Le 29 juillet 1609, Champlain prit le parti des sympathiques Hurons et livra à Ticonderoga une bataille contre les Iroquois avec lesquels il se brouilla à tout jamais. Qu'auriez-vous fait à sa place? La musique des Hurons était si douce et s'écoutait en fumant le calumet. La musique des Iroquois était violente et s'écoutait en criant « Bléargue !» et en se barbouillant la figure avec du sang. Si Champlain devint l'ami de Huron, devinez qui devint l'ami des Iroquois. Les Anglais, pardi. Il leur donnait un fusil pour chaque scalp français récolté, et pour 5 scalps, il leur donnait une tranche de roast beef. Champlain ne se contenta pas d'explorer. Il était attentif au peuplement et à la mise en valeur des terres. Le 3 juillet 1606, au pied du Cap Diamant, Champlain marcha dans une bouse de caribous et dut subir les railleries de ses hommes. Pour le clouer le bec, Champlain fonda la ville de Québec, ce qui, en huron, veut dire « bouse de caribous ». Dès le départ, la Nouvelle-France rencontra un problème crucial qui la conduirait à sa perte. Le pouvoir royal, pensant que la puissance d'une nation se mesure au nombre d'habitants, ne voulait pas affaiblir la métropole en menant une véritable politique d'émigration. De toute façon, l'opinion était répandue chez les croquants qu'il n'y avait pas besoin de voyager pour voir du pays et que chez eux, c'était aussi bien qu'au Canada. En 1632, Québec abritait 60 âmes, tandis qu'il y en avait 2000 à Boston. En 1680, la Nouvelle-France comptait moins de 10 000 habitants, tandis qu'en Nouvelle-Angleterre, on était plus de 150 000. Et ça n'allait pas s'arranger. En dépit des écrits de propagande de Champlain, « Nouvelle-France, le pays des douces fourrures et des belles indiennes, 1612 », la colonisation était le fait de petits groupes qui s'accrochaient à leurs terres et qui se heurtaient à des difficultés grandissantes. Hiver rigoureux, scorbut, disette et surtout guerre larvée contre les Anglais. Les Anglais nous auront fait tous les coups bas. L'Acadie était une jolie petite région côtière, tout à l'est du Canada, colonisée par les Français, qui vivaient paisiblement du fruit de leur travail, sans rien demander à personne. En 1828, les frères Kirke s'emparèrent de l'Acadie, et une centaine de familles écossaises, braillardes et portées sur la bibine, s'y installèrent et la rebaptisèrent Nouvelle-Écosse. Les Français la reprirent, les Anglais contre-attaquèrent, et comme ça deux, trois fois, avant que nous la perdions définitivement en 1713, au traité d'Utrecht. Les Anglais exigèrent que les Acadiens prêtent serment à la couronne britannique. Les Acadiens répondirent « I don't speak English ». Et quand les Anglais eurent le dos tourné, ils baissèrent leurs pantalons et montrèrent leurs fesses. Régulièrement, les Anglais revenaient à la charge, mais les Acadiens tenaient bon. Ils avaient juste un peu froid aux fesses. En 1755, le gouverneur Charles Lawrence se retourna brusquement et surprit les pantalons baissés. Il organisa alors une chose très triste, le grand dérangement. À partir de 1758, 12 000 Acadiens furent arrachés à leurs terres et emmenés de force vers la Nouvelle-Angleterre. On séparait les familles pour briser les solidarités. Le père se retrouvait au Massachusetts et la mère en Pennsylvanie, les enfants au Maryland. Encore prenait-on soin que les frères fussent installés au nord de l'État et les sœurs au sud. Par contre, on ne savait jamais quoi faire des cousins. Dans les années qui suivirent, des centaines d'Acadiens se réfugièrent en Louisiane pour échapper à un sort funeste. Avec leurs violons, ils cassèrent tellement les oreilles à tout le monde qu'on les installa dans les marais putrides du bayou. Les descendants des Acadiens, prononcés Acadian, sont maintenant connus sous le nom de Cajun, prononcé Cajun. Je n'ai rien dit de la Louisiane et je sens que vous êtes un peu perdu. Qu'est-ce que la Louisiane au temps des colonies? C'est une terre immense, grande comme 4 fois la France, qui s'étend de la région des Grands Lacs jusqu'au golfe du Mexique et des Rocheuses aux Appalaches. la Louisiane fut découverte par un foutraque nommé René Robert Cavelier de La Salle. Ancien jésuite défroqué, au grand soulagement de ses supérieurs, instable et paranoïaque, avide de gains et faussaire à ses heures, obsédé par la postérité, Robert Cavelier de La Salle fit deux voyages en Nouvelle-France dans la région des Grands Lacs. Puis il fut le premier Européen à descendre le Mississippi du Nord jusqu'à son embouchure. Il prit officiellement possession de la Louisiane le 9 avril 1682 au nom de Louis XIV. Louis XIV, la Louisiane, il s'en fichait comme de l'an 40. Elle est fort inutile et il faut par la suite empêcher de pareilles découvertes. Mais on ne pouvait pas la laisser aux Anglais, et Cavelier de La Salle, revenu en France, fatigua le roi pour obtenir le financement d'une nouvelle expédition. Il voulait implanter une colonie en Louisiane, à l'embouchure du Mississippi. Nommé gouverneur, il reprit la mer, à la tête de 4 vaisseaux et de 300 colons. Un premier navire fut pris par les flibustiers espagnols, on loupa l'embouchure du Mississippi et on se déporta 600 km à l'ouest. Un second navire coula sur les côtes du Texas. On fut contraint de débarquer dans le golfe du Mexique. Une mutinerie éclata. Un troisième navire fit sécession et rentra en France. Il ne restait à Cavelier de La Salle que 180 colons et un seul navire qui sombra bientôt dans une tempête. L'explorateur fit construire Fort Saint-Louis, mais la colonie se trouvait affaiblie, mal nourrie, décimée par les maladies. En butte aux attaques des Indiens, Cavelier de La Salle tenta le tout pour le tout. Il partit à pied avec 16 coéquipiers pour rejoindre le Mississippi. Mais le 19 mars 1687, il fut assassiné par ses propres hommes. 7 seulement parvinrent vivants au Mississippi qu'ils remontèrent directement jusqu'à Québec. Les renforts furent envoyés à Fort Saint-Louis, mais entre-temps la colonie avait été décimée par les Indiens Karankawas. Ils avaient tué tout le monde, mais ils avaient adopté 5 petits-enfants français qui leur avaient appris notre langue en 3 jours seulement. Tout ce petit monde accueillit l'expédition de sauvetage avec des manières raffinées. On trinqua, on dansa, le French cancan. La Louisiane était devenue notre seconde patrie. La colonisation de la Louisiane débuta avec Jean-Baptiste Lemoine de Bienville, colosse canadien qui était un véritable héros de la mer avant que ne lui soit confiée cette mission. Très vite, plusieurs petites villes virent le jour. Biloxi, Bâton Rouge, Nouvelle-Orléans, entre 1699 et 1718. Les colons ne se bousculaient pas au portillon car la vie n'était pas facile en Louisiane. En plus des moustiques qui étaient une vraie malédiction, les colons devaient se coltiner la fièvre jaune, les ouragans, les alligators. Et l'absence de petites femmes de chez nous. La Louisiane était essentiellement une colonie d'hommes. Les femmes étaient souvent d'anciennes prostituées, plus rarement des filles à la cassette, orphelines des hôpitaux de Paris, dotées par le roi et qui se portaient volontaires pour les colonies. En épouser une, c'était décrocher le pompon. Mais elle se faisait rare et de nombreux colons se mettaient en ménage avec des indiennes. Quand on est français, c'est facile de séduire les étrangères. L'indienne avait ses avantages. Elle savait guérir les maladies tropicales. Elle mettait KO n'importe quelle bête sauvage en 10 secondes. Elle se faisait des tresses de 2 mètres de long. D'accord, l'indienne était moins fine que la française, mais les colons étaient pour la plupart de gros rustaux qui passaient leur vie à courir les bois. Ils pouvaient bien s'en contenter. La population masculine de la Louisiane était pour le moins bigarrée. Forçats rescapés des galères, vagabonds ramassés dans les rues de Paris, aristocrates marginaux, maçons, forgerons, terrassiers, religieux, militaires. On avait aussi fait appel à des émigrants allemands, italiens, suédois ou suisses qui se mirent très vite au français, car c'est décidément une belle langue. À cela s'ajoutaient les Africains. Entre 1718 et 1735, 7000 esclaves noirs furent amenés en Louisiane pour servir de main-d'œuvre corvéable à merci. Pour se donner du cœur à l'ouvrage, ils chantaient des chants tristes en canon. Ils conservaient ainsi leur dignité, ce dont tout le monde se félicitait. J'oubliais de mentionner les centaines de milliers d'Indiens qui habitaient la Louisiane avant notre arrivée. Mais ils comptent pour du beurre, car ils considéraient qu'ils appartenaient à la terre plutôt qu'elle ne leur appartenait. Alors quand les Français prirent possession de la Louisiane, ils prirent tout naturellement possession des Indiens. La Louisiane et le Canada enserraient les colonies anglaises de la côte. Mais l'étau était bien lâche. Et comme pour le Canada, les chiffres de l'immigration en Louisiane étaient insuffisants pour un territoire aussi vaste. En 1735, la colonie comptait moins de 10 000 habitants quand la Nouvelle-Angleterre en alignait 800 000. Dans ces conditions, comment ne pas voir le désastre à venir? Le Canada, la Louisiane, tout ça était voué à l'échec depuis le Bédu. Mais il ne faut pas croire qu'on avait tout raté dans l'aventure coloniale américaine. Martinique, Martinique, Guadeloupe, Saint-Pierre et Miquelon. De nos jours, est-ce que ça n'appartient pas encore à la France? Voilà une question qu'elle est bonne. L'histoire française des Antilles commença en 1625. Pour échapper à un galion espagnol lancé à sa poursuite, le flibustier Pierre Belin d'Esnambouc accosta par hasard sur l'île Saint-Christophe, aujourd'hui Saint-Kitts, alors occupée par les Anglais. Belin d'Esnambouc sut les embobiner et les Français s'installèrent dans la partie nord de l'île. Par la suite, Belin d'Esnambouc s'établit en Guadeloupe, puis en Martinique. Les tribus d'Indiens caraïbes décidèrent de s'unir pour chasser l'envahisseur et le manger. Ce qui n'était pas très sérieux, car au départ, ils avaient été bien contents qu'on leur offre tout un tas de petites babioles en signe d'amitié. Guerriers redoutables, utilisant des flèches empoisonnées au curare, ils menèrent une guerre d'embuscade qui nous donna du fil à retordre. Les Indiens se cachaient derrière les cocotiers. Quand les Français passaient par là, ils croyaient se faire piquer dans le cou par un moustique, et une minute plus tard, ils étaient morts. Cette situation dura jusqu'en 1639. Quand arriva enfin le navire de ravitaillement rempli de mousquets et de poudre, alors les Français prirent leur revanche. Ils se cachèrent derrière les cocotiers. Quand les Indiens passaient par là, ils croyaient se prendre une balle en pleine tête et ils étaient morts. En quelques semaines, nous étions débarrassés des Indiens caraïbes. L'installation à Saint-Domingue fut décalée de quelques années. Officiellement espagnole, mais en grande partie désertée au profit du continent, l'île accueillait vers la fin du XVIe siècle une société cosmopolite à dominante française, les Frères de la Côte. Escogriffes, braillards et sans le sou, ils s'attaquaient aux navires des gens bien élevés, et parfois, pour avoir la vie sauve, les gens bien élevés leur confiaient la fille du gouverneur qui venait en vacances dans les îles. Malgré leur cruauté animale et leur absence de scrupules, il faut reconnaître aux pirates une certaine inventivité qui leur a permis de passer à la postérité. Jambes de bois pour flotter dans l'eau, bandeau sur l'œil pour viser sans attirer l'attention, perroquet sur l'épaule pour attraper les petits bouts de gras coincés dans les molaires. En 1626, Levasseur, dit l'arracheur de dents pour s'en faire un plastron, s'empara de Saint-Domingue et fit arracher les dents de tous les prisonniers pour s'en faire un plastron. Mais il fut rapidement égorgé et dès lors, l'île passa de main en main. Anglaise, hollandaise, espagnole ou française, Saint-Domingue finit par trouver son maître en la personne de Bertrand d'Augeron de la Bouère, qui s'imposa en faisant casser le bras droit de ses ennemis droitiers et le bras gauche de ses ennemis gauchers. Stratégie payante, il fut le seul à pouvoir tirer convenablement. Les colonies commencèrent à prospérer au rythme des gens gagés. De gros benêts sans fortune signaient pour travailler gratuitement pendant 3 ans, moyennant une traversée, des vêtements propres et la promesse qu'au terme du contrat, on inverserait les rôles avec le maître. En 1642, la population blanche atteignait 10 000 personnes, dont 7 000 engagées. À partir des années 1720-1730, la traite des Noirs donna aux colonies sa formidable expansion. Attention, il ne faut pas croire que nos ancêtres aient pratiqué le commerce triangulaire de gaieté de cœur. Ils se consolaient en pensant que le niveau de vie de beaucoup de croquants français était moins élevé que celui des esclaves. Sur les bateaux, les Noirs mouraient en grand nombre. Les armateurs recommandaient pourtant la plus grande délicatesse envers les cargaisons humaines et conseillaient même qu'on jouât du biniou breton pour divertir les esclaves durant la traversée. Mais vous savez comment sont les marins? Ils disent « oui, oui, on va les bichonner ». Et une fois en mer, ils font régner la terreur. Arrivés dans les îles, les esclaves étaient moins bien traités que du bétail quand ils n'étaient pas réduits au rang de simples meubles. On utilisait les grands costauds comme buffet, les petites vieilles comme table de cuisine et les enfants comme tabouret. Dessin assorti, assez imprévisible quand on n'a pas lu le texte. À l'origine, la maison du planteur ressemblait à une grande case juchée sur la colline. Mais bientôt, les esclaves construisant leur propre logis, on ne savait plus où habitaient les Noirs et où vivait le maître planteur. Alors on fit venir de France des ardoises et une petite girouette en forme de coque, et les esclaves bâtirent de belles demeures coloniales avec véranda et baldaquin. Dans les plantations, on cultivait la canne à sucre, le café, le coton ou le tabac. En 1750, les 50 000 tonnes de sucre produits dans les colonies représentaient la moitié du commerce extérieur français. Article de luxe vendu aux riches d'Europe, le sucre rencontrait l'indifférence de la France profonde qui trouvait que ça valait pas la rhubarbe bouillie dans son bol de chicorée le matin. Comme on s'y attendait, les esclaves apprirent facilement le français et ils en firent un usage inventif. Ainsi naquit le créole, et les Noirs purent enfin dire la négritude. En 1700, les Antilles comptaient 35 000 esclaves pour 15 000 blancs, et en 1789, 650 000 esclaves pour 53 000 blancs. On évitait de donner ces chiffres aux colons canadiens. Ils n'avaient pas besoin de ça pour devenir alcooliques. Chez eux, c'était les mêmes chiffres, mais pour les castors. Au broyage de Cannes, les esclaves avaient vite fait de se laisser emporter une main. Et alors là, il valait mieux mordre un bâton pendant que le copain vous tranchait le bras si on ne voulait pas y passer tout entier. Avec des conditions de vie aussi difficiles, beaucoup d'esclaves choisissaient la fuite ou marronnage, en particulier à Saint-Domingue où les montagnes servaient de refuge. Les marrons étaient traqués et atrocement punis, souvent mutilés, dépecés et brûlés vifs. Une fois, il y en eut un à qui l'on ne fit rien, parce qu'il avait retrouvé par hasard la fille du gouverneur venue passer ses vacances dans les îles et qui s'était perdue. Mais ce cas fut isolé. Les abus des colons en matière de châtiment sont célèbres. La métropole sut protéger efficacement les esclaves. En 1685, Colbert rédigea le Code noir, accordant à ceux qui avaient volé une pomme le droit de faire une réclamation au tribunal de grande instance de Paris avant qu'on ne leur coupe la main. We'll be right back. La morale des colons était rudimentaire. Personne n'obéissait à personne. Tout le monde volait tout le monde. C'était une société où chacun s'employait à tirer le maximum de profit et où les rancœurs se transformaient en véritable haine. D'ordinaire, on était bouffi avec des poches sous les yeux et les chemises étaient imprégnées de sueur froide. Du fait de l'extraordinaire enrichissement colonial, la contrebande et la fraude étaient pratiquées au-delà du raisonnable. On mettait du sable dans le sucre pour le rendre plus lourd, on coupait les micelles en fines lamelles pour faire plus de tabac, on mettait du pop-corn dans le coton pour qu'il prenne plus de place. Difficile d'imaginer les villes aussi mal bâties, avec des rues remplies d'ordures qui se transformaient dès le premier orage en torrents d'immondices, la salubrité, ne rapportant pas d'argent, finissait par s'accommoder de ces dépotoirs. Mais voilà que tout ce bel empire, celui des Antilles et celui de l'Amérique continentale, où tant de familles françaises avaient fait souche dans la paix et la dignité, tout ce bel empire, disais-je, allait bientôt voler en éclats. Bien entendu, tout ça arriva, par la faute de qui ? Par la faute de qui ? Des Anglais. C'est la guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, la première guerre mondiale de tous les temps. Elle opposa la Prusse à l'Angleterre, à une vaste coalition soudain la France, l'Autriche, la Suède, la Saxe, la Russie et l'Espagne. En ce qui concerne les colonies, le roi ne fit pas l'effort militaire suffisant et les Anglais, bien plus nombreux sur place, se battaient à 10 contre 1. Les Français leur disaient « Vous êtes des lâches, nous on veut bien vous prendre à 3 comme contre 1. Allez, même à 5. » Pendant ce temps, les autres restaient assis à manger des crêpes. Les Anglais acceptèrent, mais quand il n'y eut plus ni farine ni confiture, Québec tomba, bientôt suivi de Montréal. Les Antilles ne résistèrent pas davantage et la flotte française fut coulée. En 1760, la France était vaincue. Au traité de Paris, en 1763, le Canada passa officiellement aux mains des Anglais. Mais ils n'eurent pas la Louisiane, que nous avons cédée un an auparavant à l'Espagne, alliée en prévision du désastre. Lors des négociations, les Français se déguisèrent en clochards et supplièrent les Anglais pour qu'on ne les dépouillât pas entièrement, qu'on leur laissât au moins Saint-Dominique, la Guadeloupe, la Martinique. Les Anglais se montrèrent magnanimes et purent ainsi pavaner dans toutes les cours d'Europe. En réalité, nous les avions roulés. De 1763 à 1789, les bénéfices du commerce sucrier atteignirent des sommets. Quand les Anglais nous demandaient des nouvelles des Antilles, on prenait une petite mine, on leur disait qu'ils avaient gagné et que c'était pas la peine d'en rajouter. Mais on se retenait pour ne pas pouffer. Un mot de la Guyane pour finir, où de nombreuses expéditions furent tentées au XVIIe siècle, dont beaucoup se soldèrent par des échecs. À partir de 1664, on parvint péniblement à maintenir une petite colonie, mais la Guyane était un pays malsain, où les maladies tropicales étaient rigolotes et variées pour les uns, et mortelles pour les autres. Oui, là on voit tous les touristes d'alors qui ont attrapé la tourista, et vous savez comment ça se manifeste. Évidemment, ça peut faire rire les autochtones. Après la guerre de 7 ans, en 1763, le duc de Choiseul s'entêta dans une ultime campagne et ce furent pas moins de 13 000 Français qui s'embarquèrent pour Kourou. On avait négligé la préparation sanitaire de l'expédition et les nouveaux arrivants furent décimés par un festival de nouvelles infections. Grâce au système immunitaire très élaboré de certains de nos concitoyens, aujourd'hui la Guyane appartient encore à la France. Vint le temps des révolutions et la face du monde fut à jamais changée. Au début, la révolution américaine laissa Louis XVI un peu sceptique. Il ne voulait pas aider des républicains. Benjamin Franklin, venu négocier en personne, se montra convaincant. « La bonne république est celle qui accroîtra ma fortune personnelle. » La formule enthousiasma le roi qui s'empressa de reconnaître l'indépendance des 13 colonies. L'alliance franco-américaine allait conduire l'Angleterre à sa perte. Le marquis de Lafayette, nommé major général dans l'armée américaine à 20 ans, faisait des ravages parmi la gent féminine, tandis que Beaumarchais, le célèbre écrivain, agent des services secrets français et négrier en chef, enseignait l'art de la guérilla aux troupes de George Washington. La défaite anglaise fut signée au traité de Versailles en 1783. La guerre avait coûté 1 milliard de livres à la France, mais les pertes devaient être compensées par l'exclusivité du commerce avec l'Amérique. Secrètement, Benjamin Franklin négocia avec George III la reddition anglaise contre la reprise des échanges entre leurs pays. La bonne indépendance est celle qui accroîtra ma fortune personnelle. La Révolution française survint en 1789 et 2 ans plus tard, les esclaves des colonies, portés par les idées des Lumières et emmenés par Toussaint Louverture, déclenchèrent une grande révolte. Attaque des plantations, massacre des Blancs, séquestration de la fille du gouverneur venue passer ses vacances dans les îles. Le 4 février 1794, la Convention craqua et prononça l'abolition de l'esclavage. Toussaint Louverture devint général de la Révolution française et rassembla une armée de 20 000 anciens esclaves. Il défit les Anglais qui voulaient s'emparer de Saint-Domingue, élimina ses rivaux au sein de la révolte et s'octroya le titre de gouverneur général à vie, non sans avoir rétabli le travail forcé dans les plantations. Fraîchement promu consul à vie, suite à un parcours assez semblable, Napoléon Bonaparte eut du mal à encaisser qu'un noir eût teint la dragée haute. Il rétablit l'esclavage en 1802 et envoya 25 000 hommes pour reprendre l'île en main. Toussaint Louverture déclencha le soulèvement général, mais il fut trahi par Bonaparte, capturé et envoyé dans le Jura où il mourut de froid et de faim. L'armée de Bonaparte fut décimée par la fièvre jaune. Le bras droit de Louverture, Jean-Jacques Dessalines, avait repris le flambeau et menait ses troupes à la victoire. Le vicomte de Rochambeau arriva en renfort avec 10 000 hommes et déclencha une véritable boucherie. Il utilisait des chiens de combat nourris à la salade verte. Les résultats ne furent pas meilleurs et il dut capituler en novembre 1803. Le 1er janvier 1804, l'indépendance d'Haïti fut proclamée par Dessalines, qui claqua comme une gifle au visage de Napoléon Bonaparte. Et il fallut attendre 2010 pour qu'un chef d'État français consente enfin à remettre les pieds sur l'île. Et encore, il ne resta que 4 heures. Les Haïtiens dirent que le premier Français qui voudra faire un discours chez eux devra se mettre en pagne pour passer à la télévision. C'est ainsi que la France perdit la perle des Antilles, l'inestimable île sucrière qui nous avait tant rapporté. En 1804, de notre empire colonial d'Amérique, il ne restait plus rien, à part bien sûr 2 ou 3 petites îles insignifiantes comme la Guadeloupe et la Martinique. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Nous n'avons jamais dit notre dernier mot, et une idée nouvelle germa bientôt dans la tête de nos dirigeants, une idée qui allait nous permettre de contrer les Anglais lancés dans la conquête de l'Inde, une idée qui allait redonner du baume au cœur à tous les Français déçus par l'aventure coloniale américaine. Cette idée, c'est rien moins que la construction d'un empire colonial d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Au revoir.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas. Pour les petits, y'a que les os. La viande, c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits. Ceux du même acabit. Diamant de Bokassa, ça c'est secret d'état. Faut pas poser de questions quand on est juste un pion. Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. Tu me prends tout pour dessous, toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus, c'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au cou de la belle. Tous les rois, même les sous, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Broadway, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères coupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent, un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour le sou, toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus, c'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au bout de la belle. Tous les rois, même les sots, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris. Le café du Uruguay se déguste à Broadway. Mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent. Un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever. Tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer un jour. Ça va changer un jour, ça va changer bientôt, ça va changer.
On arrive à la fin et j'espère que vous serez à l'écoute la semaine prochaine.